journal Loïc Barrière. Coup d'envoi aujourd'hui des Jeux méditerranéens à Oran, en Algérie. Entretien dans ce journal avec le sénateur Rachid Temal, président du groupe d'amitié France-Algérie au Sénat. Il assiste ce soir à la cérémonie d'ouverture. Un homme interpellé après avoir projeté de commettre un attentat contre une mosquée de Lille. 18 migrants tués lors d'une tentative d'entrée dans l'enclave espagnole de Melilla à partir du Maroc. En France, la remise en question de l'avortement aux États-Unis suscite une grande émotion. À l'Assemblée, le groupe présidentiel et la NUPES proposent d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Enfin, le nombre de personnes décédées sur les routes de France métropolitaine a augmenté de 21% le mois dernier par rapport à 2019. Nous écouterons le vice-président de la Ligue contre la violence routière, Pierre Lagache. C'est l'un des plus grands événements sportifs organisés par l'Algérie depuis des années. La ville d'Oran accueille les 19e Jeux méditerranéens jusqu'au 5 juillet. Coup d'envoi ce soir, 26 pays dont la France sont représentés. 3400 athlètes ont fait le déplacement. Le sénateur Rachid Temal, président du groupe d'amitié France-Algérie au Sénat, est à Oran. Il assiste ce soir à la cérémonie d'ouverture. Nous l'avons joint il y a quelques minutes.
Je suis actuellement à Oran dans le cadre du lancement des Jeux méditerranéens et aussi pour un cycle de rencontres avec à la fois des représentants de l'Assemblée nationale algérienne. Ce matin, d'ailleurs, avec le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale algérienne. Et en même temps, également, nous allons rencontrer des membres du Conseil des Nations. Et donc, dans la délégation, il y a le vice-président avec moi du groupe d'amitié, Xavier Yacobelli. Et puis, la maire de Bezon, Nesrine Mawara, qui est aussi, puisqu'il y a un partenariat également entre la ville de Bezon et, bien sûr, l'Algérie.
Et aujourd'hui, c'est toute la ville d'Oran qui est en fête pour ces Jeux méditerranéens.
Oui, bah c'est un peu comme des JO, mais à l'échelle d'un bassin, celui de la Méditerranée. Donc c'est l'esprit, j'allais dire, olympique. C'est à la fois, bien sûr, de la compétition, mais également de la solidarité entre les peuples. Et nous savons bien que le sport unit les peuples. Et donc, je crois que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et d'ailleurs, la ministre française du sport sera également présente, puisque la cérémonie d'ouverture se tiendra dans quelques heures maintenant à Oran. C'est, je crois, important pour l'Algérie de pouvoir organiser à nouveau un événement international comme les Jeux méditerranéens. Et je crois qu'il est important, moi en tant que président du groupe d'amitié France-Algérie, de participer bien sûr à cet événement-là. Parce que vous avez bien noté qu'il y a eu quelques mois assez compliqués entre la France et l'Algérie. Et donc nous sommes dans une phase de dégel et de réchauffement. Et donc je crois que vous savez que au Sénat, nous sommes très attachés à la diplomatie parlementaire. Nous croyons à la diplomatie parlementaire qui, au-delà des représentants des deux exécutifs, permet entre les parlements justement de travailler, de dialoguer, de faire des propositions sur des textes de loi, en tout cas sur un certain nombre de questions et d'améliorer les relations. Et donc c'est dans ce cadre-là que moi je suis présent parce que, encore une fois, la diplomatie parlementaire est essentielle à la France et bien sûr au Sénat français.
Et ces Jeux interviennent avant le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. C'est important aussi cet événement pour la France et l'Algérie.
Bien sûr, parce que encore une fois, il y a deux façons de regarder son histoire. Il y a celle où chacun tente de réécrire, chacun tente de comprendre. Je crois que il y a une histoire commune entre la France et l'Algérie. Il y a maintenant 60 ans, il y a eu une indépendance. Et ce qui est important des deux côtés de la Méditerranée, en tout cas pour moi, c'est le vœu que je formule, c'est que la jeunesse des deux pays, se retrouve notamment pour construire ensemble l'avenir. Et aujourd'hui, là, je crois que l'espace méditerranéen est important. Et on le voit d'autant plus que la question d'actualité avec ce qui se passe en Ukraine, c'est aussi l'accès à un certain nombre de, notamment au gaz algérien. Donc on voit bien que des deux côtés de la Méditerranée, il y a un intérêt à travailler ensemble. Et donc il faut que la France et l'Algérie regardent leur histoire droit dans les yeux, avec à chaque fois, bien sûr, des pages, j'allais dire, glorieuses, des pages un peu moins. Mais ce qui est important, c'est de se dire que il y a eu 60 ans l'indépendance d'Algérie, mais je crois que maintenant, il faut aller vers l'avant. Et moi, je rêve d'un traité, vous savez, après les trois guerres en un siècle entre la France et l'Allemagne, il y a eu le traité de l'Élysée qui a consacré énormément et travaillé énormément sur les relations entre les deux États. Et je crois que moi, je rêve d'un traité soit à nouveau de l'Élysée entre la France et l'Algérie, soit signé à Alger, chacun trouvera le compte. Mais je crois que ça pourrait être une initiative forte à la fois des présidents algériens et français avec leurs parlements respectifs.
Il faudra que la France revienne sur la restriction des visas, notamment vis-à-vis des Algériens.
Moi, je reste persuadé que la question des visas, il faut la prendre dans le bon sens. Si la France veut toujours être un lieu qui attire notamment, on pense notamment aux étudiants, je pense aux étudiants notamment, et que justement le savoir français, la langue française puisse s'exporter pleinement, alors il faut que la France puisse être une terre où, de par le monde, on souhaite venir y étudier pour apprendre le savoir-faire français, pour la langue. Et puis après, vous savez, ça crée des habitudes, même quand les étudiants rentrent chez eux, pour notamment les marchés pour les entreprises françaises. Donc je crois qu'il faut effectivement revenir sur cette question-là. Il faut bien sûr que les États, notamment l'Algérie, contribuent notamment sur la question des retours quand il y a des déclarations pour des gens sans papier. Mais encore une fois, je pense qu'il est important de bien dissocier les deux questions. Là, la question importante à mon sens, c'est la relation entre l'État et donc faire en sorte que la France reste pour l'Algérie aussi un partenaire privilégié.
Le sénateur Rachid Temal, président du groupe d'amitié France-Algérie. En France, un homme interpellé après avoir menacé de commettre un attentat contre une mosquée de Lille Sud dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. On l'entend projeter le massacre d'une vingtaine de personnes. L'homme âgé de 23 ans est poursuivi pour menace de mort sur un groupe de personnes appartenant à une religion et apologie du terrorisme. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dénoncé des menaces graves et il a demandé à la police de sécuriser la mosquée. 18 migrants d'origine africaine ont trouvé la mort lors d'une tentative d'entrée massive à Melilla, vendredi au nord du Maroc. Un bilan donné par les autorités marocaines. 2000 migrants au total ont tenté d'entrer massivement dans l'enclave espagnole. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a souligné que la gendarmerie marocaine avait travaillé en coordination avec les forces de sécurité espagnoles pour repousser cet assaut d'une grande violence. Il estime aussi que le drame de Melilla est une attaque contre l'intégrité territoriale de l'Espagne. Un adolescent palestinien tué par des soldats israéliens en Cisjordanie occupée, âgé de 16 ans, il a succombé à ses blessures après avoir été blessé par balle près du village de Silwad, dans la région de Ramallah. Le gouvernement français soutiendra la proposition de loi visant à inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. L'initiative a été prise par Aurore Berger, la présidente du groupe présidentiel à l'Assemblée, après la décision de la Cour suprême américaine de revenir sur le droit fédéral à avorter. Une décision qui a suscité une forte émotion au sein de la classe politique française. Une proposition similaire à celle de Renaissance a été déposée par la coalition de gauche, la NUPES, à l'Assemblée. En Norvège, 2 morts et plusieurs blessés après des tirs à Oslo. La fusillade s'est produite vendredi soir près d'un club gay. La marche des fiertés LGBT prévue ce samedi après-midi à Oslo a été annulée. La police enquête sur un acte terroriste. Le nombre de personnes mortes le mois dernier sur les routes de France a augmenté de 21% par rapport à 2019. Il s'agit de l'année de référence avant la pandémie. En un mois, 293 personnes sont mortes contre 243 en mai 2019. La mortalité des cyclistes a quasi quadruplé, tandis que celle des conducteurs de deux roues motorisées a presque doublé en 3 ans. Entretien avec le vice-président de la Ligue contre la violence routière, Pierre Lagache.
Ce qu'on constate en fait, c'est que on a un sujet particulier sur la sécurité des cyclistes. Donc, il s'explique pour partie par le fait qu'on a une augmentation de la pratique des cyclistes sur notre territoire, notamment en milieu urbain, avec des vraies politiques à mettre en place à la fois en termes d'aménagement, mais aussi en termes de prévention et de contrôle, parce que nous constatons que la cohabitation entre les mobilités douces et la circulation plus traditionnelle des véhicules légers et camions pose des difficultés de plus en plus importantes. Donc ça, c'est un vrai sujet. Sur le problème de la sécurité des cyclistes, je pense qu'il faut appréhender le sujet de façon globale. Il y a d'abord un sujet qui est la prise en compte par les usagers qui sont les moins vulnérables, je pense aux automobilistes, des usagers les plus vulnérables. On a été dans un paradigme pendant de nombreuses années où finalement c'était plutôt aux usagers vulnérables à se protéger de la circulation plus classique, des voitures, des camions. Aujourd'hui, nous voyons un développement important, des flux de cyclistes et même d'engins un peu divers, je pense aux trottinettes. Et il faut inverser finalement la tendance, c'est-à-dire que il faut effectivement sensibiliser davantage les usagers de la route au fait que il faut prêter une attention particulière aux usagers les plus vulnérables. Alors il y a aussi une responsabilité partagée, puisque on sait qu'aussi dans la pratique cycliste, il y a des usages qui ne sont pas satisfaisants, avec une légèreté parfois par rapport au respect des limitations de vitesse. Je pense notamment sur des cohabitations entre piétons et cyclistes qui peuvent vraiment poser problème, mais aussi le respect de du code de la route. Donc il faut vraiment s'attacher à ce sujet, sinon on va constater dans les mois et les années à venir un bilan qui va forcément s'alourdir.
Et les signaux qui ont été récemment donnés par le précédent gouvernement, liés notamment au permis à points, ce sont des signaux qui vous inquiètent ?
Nous, on constate depuis plusieurs années une démission de l'État sur la question de la sécurité routière. Je pèse mes mots. Nous avons constaté des reculades successives. Première reculade sur le 80 km/h, seconde reculade sur le 110 km/h qui était proposé par la Convention citoyenne sur le climat, troisième reculade sur le contrôle technique des motos. Voilà, donc tous ces signaux, si vous voulez, ils sont perçus par tout un chacun, et ils laissent à penser que la sécurité routière n'est plus un problème. Donc relâchement des comportements, voilà, il est temps que l'État reprenne les choses en main et affiche la sécurité routière, qui, je le rappelle, est la première cause de mortalité de nos jeunes, comme une priorité nationale. On est dans une situation finalement logique par rapport à une forme de démission de l'État sur ce sujet.
Avez-vous constaté une modification du comportement, notamment des automobilistes, depuis la crise sanitaire et les confinements ?
Ce qu'on constate, c'est plutôt un relâchement. Mais évidemment des conducteurs, du fait justement d'une pression en termes de contrôle qui est plutôt en baisse. On sait que les forces de police sont de moins en moins présentes sur le bord des routes, mais aussi sur l'idée que la sécurité routière ne serait plus une priorité. Donc moins de contrôle, un message liminal qui laisse à penser que on aurait atteint une espèce de plafond de verre, ce qui est complètement faux, puisque je rappelle qu'en France, on a un résultat très moyen, très médiocre même, par rapport à d'autres pays européens. Nous sommes en milieu de tableau, et donc l'ensemble de ces éléments conduisent à un relâchement des automobilistes. On a aussi l'impact, bien évidemment, des distracteurs au volant, je pense notamment au téléphone, qui impacte le bilan. Voilà, c'est un ensemble de facteurs qui doivent conduire l'État vraiment à reprendre les choses en main.
Et quel type de mesures vous préconisez au sein de la Ligue contre la violence routière ?
Il faut d'abord agir sur la vitesse, même si c'est un élément controversé. Nous savons depuis toujours que 1% de vitesse moyenne observée, c'est 4% de vie sauvée sur les routes. Donc le fait de baisser ces vitesses moyennes générera forcément une amélioration des résultats. Bon, il faut le faire avec discernement, mais on constate que dans beaucoup de villes aujourd'hui, le 30 km/h devient progressivement la norme, et c'est plutôt une bonne chose pour que l'ensemble des flux puissent bien cohabiter. On a aussi des mesures qui visent à supprimer la possibilité pour les automobilistes en comportement déviant, d'éviter les contrôles. Il y a tout un tas d'applications aujourd'hui qui permettent d'être avertis des contrôles, notamment dans le domaine de la vitesse. C'est interdit dans certains pays européens. Il faudrait qu'on puisse prendre ce type de mesures. Il y a l'AVIA, donc le limitateur automatique à la vitesse autorisée, qui vous permettrait finalement d'adapter de façon automatique votre vitesse à la vitesse autorisée. Donc voilà, on sait que c'est une solution qui est plutôt attendue hein, de la part des automobilistes, mais qui n'est toujours pas mise en œuvre. Et puis bien évidemment, toujours renforcer la question de la prévention, mais en l'associant avec un dispositif de contrôle véritablement efficace, puisque on sait que les forces de l'ordre aujourd'hui ne sont plus sur cet objectif prioritaire qui est contrôler la sécurité sur nos routes.
Le vice-président de la Ligue contre la violence routière, Pierre Lagache, il répondait à François-Xavier de Calonne. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 23h est Diane Mazloum pour le Musée National, publié aux éditions Stock. Rediffusion de cette émission ce dimanche à 19h. À midi et 18h, vous retrouverez François-Xavier de Calonne ce dimanche pour les éditions en langue française. Merci de votre fidélité.